C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Bertolt Brecht, 1898-1956. Écrivain, dramaturge. Allemand. Politique, communiste, stalinien, hétérosexuel. Œuvre, La résistible ascension d'Arthur Howitt, même titre en allemand. Écrite en 1941, reprise en 1954-1956, représentée posthume en 1958, traduction en français 1960. Personnage, Arthur Howitt. Oui, on dirait le couinement d'un porc. Je sais l'erreur que je fais en employant le mot porc pour désigner la bassesse, le porc n'étant pas plus bas que le chat, et la bassesse étant une catégorie morale inapplicable aux animaux. Je sais aussi que la métaphore n'a aucune portée politique. Si je dis « Donald Trump, ce porc », je dévie ce que je croyais être une flèche. L'image attire l'attention sur le mot porc et on oublie l'essentiel « Trump ». C'est Trump qui devrait servir d'élément de comparaison, comme quand nous disons d'un conquérant dévastateur ce Gengis Khan. En comparant, en imageant, nous détournons tant soit peu le regard de la singularité. Nous créons une diversion et pendant ce temps-là, le Trump avance et tente de mettre en place, sous le vomi de sa vulgarité, un régime plus qu'autoritaire. Bertolt Brecht a dû affronter ce problème littéraire avec le régime nazi. D'ailleurs, il n'en a pas tout de suite vu la spécificité. Étant communiste stalinien, je le précise car les trotskistes n'ont pas commis la même erreur, il a eu l'orientation butée de ces gens-là qui avaient décidé que Hitler n'était qu'une forme plus agressive du capitalisme sans voir que les capitalistes n'avaient pas mugi dans 1000 meetings un antisémitisme maniaque. Et puis il s'est exilé en 1933 après la nuit de cristal et il a écrit La résistible ascension d'Arthur Howitt qu'il n'a pas pu monter aux États-Unis et qui ne l'a été donc qu'après sa mort en 1958. Il est difficile de montrer les tyrans au théâtre, qui les flattent souvent. Néron dans Britannicus, Angelo au tyran de Padoue, même quand ils sont des monstres, ils sont précisément des monstres. C'est une forme d'idéalisation à l'envers. Le pouvoir est admiré quand on en pense autant de mal. Or le pouvoir, c'est bien souvent médiocre. Qu'est-ce qu'un tyran la plupart du temps, sinon un caporal héroïsé? Que serait Napoléon s'il n'avait pas entraîné la mort d'un million de Français? Il faut bien qu'on se console du sang, et alors on l'appelle ogre. Nous avons sous les yeux en ce moment un pouvoir abject exercé par Trump. Et Trump est un imbécile. Un imbécile habile à exciter les passions basses. Il est rare qu'on montre cela. Bertolt Brecht l'a fait. Pour parler d'Arthur Howitt, je reçois Armel Héliot, critique dramatique au Figaro. Armel Héliot, est-ce que Brecht a donné des indications physiques et de comportement pour le personnage d'Arthur Howitt?
Il y a des didascalies, mais elles sont pas très développées. Il pense à Hitler, lui, quand il écrit ça. Il a commencé de rédiger Arthur Howitt dès 1934, et puis il a laissé tomber. Il était en Finlande un moment, et puis lorsqu'il s'y remet, il pense aux États-Unis. Il pense créer sa pièce là-bas, et il pense donc, en pensant à Adolf Hitler, aussi à Al Capone. C'est pourquoi on se retrouve à Chicago dans un monde de marchands et de truands.
On nous a répété bien souvent que le théâtre de Brecht était épique. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que je ne vois pas bien ce que ces personnages ont de héros exemplaires, puisque l'épique, ça veut dire ça, l'épopée, comme Roland ou le Cid, sauf à l'entendre par antiphrase. Et d'ailleurs, Brecht a qualifié la résistible ascension d'Arthur Howitt de farce. Est-ce que vous croyez que c'est épique, vous, tout ça?
Oh non, pas du tout. Et je crois à Brecht, qui comprenait très bien ce qu'il faisait. C'est pas toujours le cas des auteurs dramatiques, mais lui voyait très bien. D'abord, il avait son projet, il y tenait. Et c'est pas du tout, effectivement, c'est une farce, c'est un bouffon, Arthur Howitt. Un bouffon qui fait très 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 peur, mais c'est un bouffon.
Racontez-moi ce qui arrive dans la pièce. Tout le monde la connaît peut-être pas.
Alors, ça se passe donc à Chicago. Et il y a un problème sur la vente des légumes. Et Arthur Howitt et ses comparses se mettent en tête d'avoir l'exclusivité en quelque sorte. Hein. On est à l'époque un petit peu du trafic en tout genre.
C'est dans les années 30 comme ça, c'est
voilà,
pendant la crise économique.
Tout à fait, pendant la prohibition ensuite. C'est vraiment un moment de grande crise économique et morale en même temps. et il en profite au maximum. Mais il n'arrive pas. Alors, il noue des alliances avec des personnages, j'ai plus tout leur nom en tête, mais des personnages qui renvoient exactement à l'entourage d'Adolf Hitler. Mais il se comporte aussi comme un mafieux du trottoir de Chicago. C'est ça qui est très intéressant, au fond. C'est ça qui le rend si proche, parce que c'est vraiment un pauvre type. Et il y a des moments qui renvoient là aussi à la vraie vie d'Adolf Hitler. Il y a une scène extraordinaire dans Arthur Howe. C'est la scène où il va prendre des cours de comédie avec un grand comédien.
Chose que Hitler avait faite.
Hitler a fait ça avec un acteur classique qui s'appelait Basile, je crois. Et il a pris non seulement des cours de diction, d'élocution, mais il a appris aussi la gestuelle, la manière de se tenir, la manière de marcher. Il a été très très loin dans la discipline physique Hitler. C'est fou d'ailleurs. Et c'est sans doute ce qui ajoutait à son ascendant hystérique et effrayant et qui en même temps subjuguait les foules. Et Arturo, il y a cette scène, c'est une des scènes très drôles de la pièce, où il prend des cours de théâtre, c'est formidable.
En quoi est-elle drôle?
Bah parce qu'il a en face de lui, là aussi, un acteur très sérieux, très classique. C'est comme si on allait chez un ancien sociétaire ou un sociétaire honoraire de la Comédie française pour apprendre à bien articuler, pour apprendre comment se comporter. C'est un coach, comme on dirait aujourd'hui. Et évidemment, il n'arrive pas toujours. Et en même temps, Brecht est assez malin et assez drôle quand il veut l'être pour montrer comment Arturo comprend la leçon.
Alors, Arthur Howe, c'est la brutalité, l'intimidation, la menace, je crois même que c'est l'incarnation du cynisme, il est très dissimulateur et violent, et il a ce comportement commun aux mafieux et aux politiciens tyranniques, c'est qu'il propose sa protection à des gens qui ne la demandent pas.
Oui, il intimide. C'est vraiment une pièce aussi sur l'intimidation, sur comment on manipule les gens, comment on se saisit d'une proie un peu faible et qu'on lui dit « mais ne vous inquiétez pas, je suis là ». Et ces proies n'ont pas le choix, il y a plusieurs personnages dans la pièce qui n'ont pas le choix et qui doivent se mettre sous l'aile d'Arturo, dans la main d'Arturo.
Alors, l'histoire, on l'a dit, se passe pendant la crise économique et la prohibition. Est-ce que vous diriez que Arthur Howe est plus Al Capone qu'Hitler, ce qui me semble par moments le cas, mais en même temps, c'est aussi plus Hitler que Capone, et à la fin, c'est Capone devenant Hitler, parce que ça n'est pas exactement Hitler, ça n'est pas exactement Capone.
Non, il a voulu, Bertolt Brecht a voulu faire une comédie, puisqu'il espérait qu'elle soit montée à Broadway. Il avait même fait traduire la pièce, juste au moment de l'écriture, en 41-42. Faut pas oublier que juste avant, Charlie Chaplin fait le dictateur. Et c'est vraiment, on voit que c'est quand même deux artistes très courageux. Parce qu'il faut se remettre dans l'époque. Et c'est vrai que il faut un certain courage moral et sans doute aussi physique pour oser s'attaquer à cette époque-là à Hitler. C'est très clair dans Le Dictateur, c'est moins clair dans Arthur Howe, mais tout de même, il a vraiment, je le disais, les personnages renvoient à Göring, à Hindenburg, à tous ces gens-là. C'est vraiment clair. Et en même temps, il doit être très impressionné. Brecht est quelqu'un qui lit les journaux, qui lit la presse, qui connaît l'histoire, donc il connaît l'histoire des États-Unis. Il se fond dans la vie des États-Unis et il a ce rêve incroyable de et si la comédie allait sur Broadway. Et puis ça ne sera jamais le cas.
Et pourquoi on le sait?
Non, parce qu'il n'a pas trouvé l'argent, tout simplement.
Alors vous avez raison, Armel Héliot, de spécifier ça, parce que maintenant ça nous paraît assez naturel, mais il faut rappeler que aux États-Unis, en 41, quand Brecht y est arrivé, il y avait un parti pro-allemand, les États-Unis n'étaient pas encore en guerre du côté des Alliés, il y avait des manifestations antisémites dans les rues de New York, et on pouvait tout à fait imaginer qu'un type qui écrivait des choses déplaisantes pouvait se faire casser la figure dans la rue, c'était pas comme maintenant.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on oublie parce que, au fond, l'Amérique, c'est le 6 juin qui libère l'Europe. Le monde, peut-être, mais c'était pas ça du tout, l'Amérique. Et elle l'a prouvé après la guerre, d'ailleurs, avec les chasses aux sorcières qu'on a connues.
Quoi. Et juste avant la candidature de Lindbergh, qui était une candidature ultranationaliste, etc. Alors, Armelle Elliot, à la demande de Brecht, ses indications de mise en scène, il y a un écran sur lequel sont projetés des textes très brefs qui rappellent les circonstances politiques du nazisme, de ce qu'on vient de voir. Pas de ce qu'on va voir, mais de ce qu'on vient de voir. Je me suis toujours demandé si c'était pas une influence sur lui de l'opéra chinois, où il y a parfois des textes projetés sur le côté.
Oui, sans doute. Et puis, c'est son souci pédagogique. Et puis, on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il pense vraiment à l'Allemagne. Il pense vraiment à ce qui se passe en Europe, même s'il est de l'autre côté de l'Atlantique. Et tous les metteurs en scène ne se plient pas à cette règle.
Ah bon ?
Non, tous les metteurs en scène ne se plient pas à cette règle. Katharina Thalbach, qui l'a montée... au français, qui est la fille de Benoît Besson, donc qui est une héritière du Berliner Ensemble, l'a fait. Et c'est très important, je trouve, cette projection, parce que je pense qu'un public qui n'a pas lu avant de venir au théâtre est remis dans le flux de l'histoire, et c'est très important.
Alors, une chose frappante, c'est que ça n'est pas une pièce réaliste, contrairement peut-être à l'impression que nous pouvons donner en parlant depuis tout à l'heure. Il faut préciser que d'abord elle est écrite en vers, que Brecht s'est probablement inspiré ou a voulu rappeler la traduction allemande du Richard III de Schlegel et Tieck au XIXe siècle. C'est d'ailleurs une influence très évidente de Brecht, Shakespeare. Et il dit, je le cite, Armelle Elliot, qu'il veut que sa pièce soit représentée en grand style avec des réminiscences claires au théâtre élisabétain. C'est dans une note pour la mise en scène de sa pièce. Est-ce que, en faisant parler un gangster comme Arthur Howe en grand style et en vers, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il ne veut pas, au fond, montrer que le pouvoir est un faux prestige?
Oui, je pense, parce que il y a un côté aussi qui doit être comique quand on entend l'allemand et qu'on entend vraiment les vers. Les traductions sont plus ou moins habiles de ce point de vue-là. Et un public français ne se rend pas toujours compte que les malfrats ont une espèce d'éloquence.
Une emphase
et que cette langue est un haut niveau de langue. C'est pas du tout une langue de truand de films de série B. Et je pense aussi qu'il s'est mis dans l'ombre de Shakespeare, et dans Shakespeare, les pires crapules, les scélérats, les crapauds du diable, comme Richard III par exemple, s'expriment tous avec une grande hauteur de langue, une éloquence. Et je pense que Brecht aussi pense que la langue, la littérature, l'effort, la poésie, aide à comprendre le monde. Et je pense que lui qui fait œuvre pédagogique, au fond, il veut montrer à des gens parfois simples ce qu'est la réalité. Je pense que lui, qui est plongé dans la littérature tout le temps, depuis toujours, sait que plus on met la barre haut, plus on peut toucher les gens.
Et puis, est-ce qu'il y avait, c'est une interprétation qui a été donnée, là, pour moi-même, j'en suis pas si sûr, mais on a dit qu'il y avait aussi, dans cette volonté de grand style, dans cette pièce en particulier, un désir de reconstituer la langue allemande, car comme on sait depuis Klemperer, le nazisme a été aussi une entreprise de destruction de la langue allemande.
Oui, je pense, j'ai lu certaines analyses qui vont dans ce sens, et je pense que c'est exact.
Oui. Dans l'épilogue de sa pièce, une image qui a tellement plu qu'elle a été répétée et devenue un cliché, c'est le triomphe pour un écrivain. On l'a oublié, mais l'expression « la bête immonde » vient de là, vient d'Arthur Howe, et la phrase est, je vais la citer, « Vous apprenez à voir plutôt que de rester les yeux écarquillés, le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. »
Oui, alors on connaît tous cette traduction-là. Pour moi, cette phrase, elle est consubstantielle à Arthur Howe, elle est consubstantielle à la pensée de Brecht, et cette pensée s'est propagée en dehors du théâtre grâce à cette phrase, à cette formule. Alors même si on ne la doit qu'au traducteur, je trouve qu'elle est formidablement efficace.
Oui, je pense que vous avez raison et que de toute façon, on n'y pourra rien. Quand une phrase a gagné par sa musicalité ou son image, on peut la modifier Ça arrive tout le temps, il y a des retraductions, oui. Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry est devenu sous le volcan, oui. Mais tout le monde continue à dire au-dessous du volcan. Nous allons maintenant entendre Jean Villard interpréter Arthur Howie lors de la création de la pièce en France. C'était au TNP, le Théâtre National Populaire, au Palais de Chaillot, en 1960.
Oui, monsieur Innsbruck, vous avez sous les yeux un homme méconnu, noirci par des envieux, perfidement sali dans ses intentions. Lorsque, voici 14 ans, fils des faubourgs de New York, j'ai commencé ici, moi, modeste chômeur, une carrière qui, je crois pouvoir le dire, ne fut pas sans succès. Je n'avais pour me suivre que sept vrais durs, manquant de tout, mais décidés à tailler comme moi leur juste part de viande, dont tous les bovidés qu'a créé le Dieu bon. Eh bien, nous voilà 30, et bien d'autres suivront. Vous allez demander que veut de moi cet homme. Je ne veux pas grand-chose, une seule, que l'on me connaisse moins mal, et qu'enfin, je ne passe plus pour un flibustier, pour un je ne sais quoi, surtout pas aux yeux d'une police, objet depuis toujours de mon respect. Aussi bien, me voici devant vous pour vous prier. Je ne veux pas prier de glisser, au besoin, un mot ou deux aux flics.
Vous cautionnez ensemble?
Dans le cas de besoin, cela dépendra comme nous saurons nous entendre avec les légumiers.
Qu'avez-vous donc à voir, vous, avec leur commerce?
J'y arrive. J'ai pris ma décision. Être leur protecteur contre toute menace. Être leur protecteur par la force au besoin.
Pour autant que je sache, il n'est pas pour l'instant menacé à ce point.
Pour l'instant, admettons, mais moi je vois plus loin et je dis, pour combien de temps? Pour combien de temps? Le modeste détaillant pourra-t-il vendre en paix ses souffleurs? Peut-être que demain il verra démoli par des mains criminelles son petit magasin, son tiroir fracturé. N'aimera-t-il pas mieux, pour quelques redevances, traiter dès à présent avec un protecteur?
Je pense plutôt que non.
Cela signifierait donc qu'il ne connaît pas ses intérêts. Possible! Le petit détaillant, travailleur, mais borné, honnête en général, mais sans vision d'ensemble, veut être commandé. Hélas, il ne se sent pas responsable envers le trust auquel il doit tout. Cher monsieur Innsbruck, plus de mauvais payeur. Payer ou bien fermer, certes, quelques faiblards risquent de succomber. C'est la loi naturelle. Bref, le trust du souffleur a besoin d'Arthur. Oui.
Qu'ai-je à faire du trust? Jeune homme, vous frappez avec ce plan bizarre à la mauvaise porte.
On verra ça.
J'ignore pour ma part si le trust, au lieu de machines à écrire, veut des pistolets mitrailleurs. Mais quant à moi, je ne suis pas du trust.
On en reparlera.
Armel Elio, Brecht emploie le mot Aufhaltsame, du verbe Aufhalt, empêcher, qu'on a traduit par résistible en France, ce qui est un mot si rare qu'on pourrait le croire un néologisme, mais non, car je l'ai retrouvé dans Bossuet, figurez-vous, et si Bossuet le dit, on peut l'employer. Est-ce que ça n'est pas ce mot de résistible, et qui est donc le même en allemand, une part un peu naïve de Brecht, parce qu'au moment où il écrit, Dieu sait que Hitler n'était pas résistible, puisqu'il était au pouvoir et même en guerre.
Oui, je n'ai jamais compris, moi, ce titre, au fond. Enfin, déjà, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais pas sûre de comprendre ce que ça voulait dire, résistible. Parce que c'est vrai que c'est un mot très rare dans la langue française. Il existe, mais c'est très bizarre. Ça donne une couleur très étrange, d'ailleurs, à la pièce. Même le nom d'Arthur Howie est bizarre. Enfin, tout est bizarre là-dedans. Et moi, je n'ai commencé à entendre parler d'Arthur Howie que quand Jean Villard l'a monté. Mais j'étais encore une petite fille, donc je l'ai pas vu du tout. Et je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Je me souviens pas. Il doit l'expliquer dans ses carnets, Brecht. Mais je ne m'en souviens pas.
Pour être juste, il faut dire que dans la version qu'il a retravaillée après la guerre, dans les années 50, il a supprimé le mot et que c'est posthumément qu'on l'a rétabli. Donc on lui a fait une petite injustice. Lui-même avait vu que c'était un mot un peu étrange.
Sans doute, oui.
Alors, Villard, nous en parlions, Armel Elio, s'est servi de cette pièce pour changer ses principes de mise en scène dans une interview qu'il a donnée au moment de la création, en 60 à Paris. Il a dit qu'il avait institué un collectif de régie, ce qui est une locution relativement emphatique pour dire qu'il co-dirigeait avec George Wilson, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Quelles ont été les grandes représentations du Arthur Howie, celles en particulier, vous, Armel Elio, auxquelles vous avez assisté, et ses grands interprètes?
Alors, Bon, Villard, je le dis, je ne l'ai pas vu. Villard, il y a des enregistrements audio.
Il n'y a pas de captation filmée.
Il n'y a pas de captation, je n'en ai jamais vu, moi, en tout cas. Parce que du temps du TNP et de Chaillot, du temps d'Avignon, le TNP et Chaillot, on n'a que des petits bouts, c'est dommage.
C'est inouï, d'ailleurs.
On n'a quasiment rien de Maria Cazares jouant Lady Macbeth. C'est vraiment, c'est dommage. Le premier Arturo Huy que j'ai vu, c'était à Chaillot aussi, mais c'est plus tard, dans les années 70, je pense, c'est George Wilson qui met en scène la pièce avec un transfuge de la Comédie Française qui a le droit de jouer en dehors puisqu'il est dans un théâtre national, et c'est Robert Hirsch.
Ah, Robert Hirsch.
Oui. Et Robert Hirsch, c'était un Arturo Huy qui faisait peur et qui ressemblait à Hitler d'ailleurs, et qui, par sa petite taille, sa nervosité, sa capacité sonore, si j'ose dire. Moi, j'ai un souvenir très angoissant de ce personnage, très glaçant même. Et puis, en même temps, il jouait la partie bouffonne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'être un Richard III et puis de faire le bouffon. Et donc là, il était extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir, mais ça remonte à 40 ans.
Et ça a été capté ?
Ça, je ne sais pas, je n'en ai jamais vu, je ne l'ai jamais vu en entier. J'ai vu des morceaux, parce que là, il y avait déjà la télévision qui tournait des sujets, mais je ne crois pas non plus qu'on en ait une captation, je ne crois pas.
Il n'y a aucun sens de l'archivage dans le théâtre, au fond.
Il est venu très tard, et puis à la décharge du théâtre, il faut bien dire que c'est très difficile à filmer, qu'il faudrait refaire les lumières à chaque fois.
C'est vrai.
Et puis on n'avait pas la vidéo qui est maintenant si simple, on met en boîte, c'est pas très beau, mais au moins on a des traces.
Et puis d'ailleurs, peut-être que la fugacité fait partie du théâtre.
Oui, je pense.
Et quels sont les autres grands interprètes? Est-ce que vous avez vu le Heiner Müller d'Avignon? Est-ce que...
Voilà, le Heiner Müller d'Avignon, qui était absolument extraordinaire.
En 1996.
Voilà, mise en scène de donc Heiner Müller, qu'il avait fait à la Schaubühne, je crois, ou au Berliner Ensemble, qui arrive à Avignon, et ça commence sur la place de l'Horloge, dans Avignon, avec le petit manège, les terrasses des cafés pleins. Il est encore tôt, c'est l'été, il fait encore beau, et tout d'un coup, au balcon du théâtre municipal d'Avignon, qu'on appelle avec emphase à Avignon l'opéra d'Avignon, mais qui est en fait le théâtre municipal, tout d'un coup, au balcon, il y a un homme qui se met à vociférer comme un forcené, en allemand. Et je crois que c'est un des souvenirs les plus saisissants que j'ai pu avoir, qu'a pu avoir le public, et même les badauds qui étaient sur cette place, parce qu'au fond... Les badauds, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et en fait, c'était Martin Wuttke qui était là, un acteur exceptionnel, et qui commençait son Arturo Huy dans la rue, sur la place de l'Horloge.
Quel serait pour vous un interprète original, intéressant, qui n'a pas joué encore Arturo Huy? Vous penseriez à qui? Est-ce que vous verriez un Depardieu? Est-ce que vous verriez où il est devenu trop caricatural?
Depardieu, il est trop. Au fond, il a trop de douceur, Gérard Depardieu. Il est fait pour jouer les grands-pères dans Victor Hugo maintenant. Il faut quand même une violence physique, une force que Gérard a absorbée au fil du temps. Et maintenant, il nous susurre les chansons de Barbara. C'est très très beau, mais je ne sais pas. Non, on a vu un Philippe Torreton,
ah bon,
jouait Arturo Huy il y a 2-3 ans dans une mise en scène de Pitoisé. Mais alors c'était dans un univers d'hommes d'affaires aujourd'hui. Et ça ne fonctionnait pas complètement. Et là aussi, ils oscillaient, ils voulaient montrer que c'était vraiment Hitler. Et donc, un metteur en scène qui veut à toute force montrer que c'est Hitler... Souvent, il se trompe. Surtout là, c'était d'entrée de jeu. Il était dans un fauteuil, il avait ses bottes et ses pantalons larges, de cheval quasiment, et c'était pas bien. Le dernier Arturo qu'on ait vu, c'est pareil, c'est drôle, on choisit souvent des acteurs pas très grands, hein, parce que Robert Hirsch n'était pas très grand, Torreton n'est pas très grand, Laurent Stoker n'est pas très grand. Ils ont des formats comme ça d'hommes pas grands mais terrifiant. Ah oui, Jean Sautin, que j'ai oublié, mais qui était excellent. C'est Guy Bedos.
Guy Bedos.
Guy Bedos à Chaillot. Mais oui, j'oublie Guy Bedos.
Bien sûr.
Guy Bedos à Chaillot, mis en scène par Savary. Donc ça, ça devait être dans les années 80, je suppose. Et Guy Bedos était pas mal du tout. Et en tout cas, c'est un comédien modeste qui était allé travailler à la Maison Jean Vilar d'Avignon, qui avait cherché les archives Jean Vilar pour voir comment Jean Vilar, qui a créé la pièce en France, s'y était pris. Oui, j'allais oublier, c'est pas bien, parce que Guy Bedos a été un assez bon Arturo, oui. Et puis donc, il y a le dernier qu'on ait vu à Paris, qui est Laurence Stocker, donc dans une mise en scène à l'allemande de Katharina Thalbach, où il est là, il évoque clairement Hitler par moment, mais il est formidable, moi je l'ai trouvé extraordinaire.
Pour finir, Armel Hélio, il faut dire un mot, puisqu'après tout, j'ai bien rappelé que Brecht avait été communiste stalinien. On sait qu'après la guerre, il s'est installé en Allemagne de l'Est. Ce qu'on ne sait pas ou pas très bien, c'est qu'il a voulu revenir en Allemagne de l'Ouest, et que des États-Unis où il était en exil, et que ce sont les autorités américaines d'occupation qui lui ont refusé de s'installer en Allemagne de l'Est, ce qui s'est révélé d'une belle imbécilité.
Ah oui, c'est dommage, parce que on aurait pu avoir accès à lui, il aurait écrit sans doute d'autres choses, il se serait dégagé de la rigidité du Berliner.
Et il a beaucoup moins écrit d'ailleurs.
Il a beaucoup moins écrit, et puis on aurait vu que c'est un écrivain qui paraît... Moi j'ai été élevée dans l'idée que Brecht c'était du béton et que c'était gris.
C'est
pas vrai du tout. Quand c'est Strehler qui monte la bonne âme du Szechuan, c'est absolument merveilleux, c'est un conte, et en même temps... Il y a une morale, il y a une force dramatique extraordinaire.
Et puis on dit souvent, ce qui est vrai, qu'il a écrit des poèmes à la gloire de Staline à l'Est et qu'il a reçu le prix Staline, ce qui est vrai. Mais on oublie de dire qu'il a aussi écrit des poèmes critiquant un peu le régime. Il ne les a pas publiés, mais au moins il les a écrits. C'est la grande différence avec certains. On n'a pas trouvé dans les papiers de Brasillac des textes raillant la collaboration. Et par exemple, son fameux poème La Solution, où il conseille de dissoudre le peuple pour en élire un autre, il a quand même fait ça.
Eh oui, non, il était courageux. Pour moi, c'était un homme très courageux.
Armel Hélio, qu'est-ce que vous a appris le personnage d'Arturo Huy ?
Que la terreur n'est jamais très loin. Que même un monsieur qui veut prendre le pouvoir sur la vente des choux-fleurs peut être dangereux. Que l'être humain est très, très bizarre. Il y a, dans Brecht, qui est un poète... Il y a toujours une part d'humanité dans les personnages les plus terribles. Ce ne sont jamais des marionnettes. Et quand on croit voir s'agiter des dictateurs à droite à gauche dans notre monde aujourd'hui, il faut faire très attention. Vous parliez de Trump, il faut faire très attention.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis. De l'autre côté de ma vie.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Valérie Lavalin.
C'était un grand jeudi. Tous les jours paradis. De l'autre côté de la rue. Quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent pas être heureux, comme si j'étais assis.